Bonjour, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on s'intéresse au chef-d'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui est au top des ventes après l'incendie. Ensuite, on passe à Avignon, où l'on recrute des employés pour le prochain festival. Et puis, on termine avec une vente aux enchères d'objets reliant Johnny Hallyday à sa passion pour la course automobile. Mais avant tout cela, c'est l'actu de ce mercredi 17 avril. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tornier, bonjour à tous.
Emmanuel Macron souhaite voir Notre-Dame reconstruite d'ici 5 ans.
Ce sera difficile pour ce chantier titanesque qu'on entend. Entendra élu et spécialiste de la rénovation après les incendies.
Les dons des grandes fortunes comme des particuliers continuent d'affluer. On approche du milliard de dons.
Avec une question, la défiscalisation pour les entreprises qui représentent la grosse majorité de la somme. La famille Pinault a dit qu'elle renonçait à une réduction d'impôts avec son don.
On verra aussi les petits dons, les vôtres, les nôtres, avec des initiatives à Toulouse ou dans la Sarthe.
On va parler ce midi des pensions alimentaires qui ne sont pas versées. L'État pourrait se porter garant pour une partie de la somme. Si l'on en croit les fuites des annonces qu'Emmanuel Macron a reportées.
Pour la page football du jour, on passera aussi par la maternité.
Oui, des bébés Coupe du Monde qui arrivent 9 mois après le titre des Bleus.
Certains ont donc plus fêté le titre que d'autres. Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tornier, Denis Farou sur France Bleu.
48 heures après un sinistre qui a stupéfié le monde, les cloches de toutes les cathédrales de France vont sonner ce soir à 18h50, à la même heure que le début de l'incendie lundi soir.
Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore, a dit Emmanuel Macron, d'ici à 5 années. C'est la date avancée qui a surpris dans l'allocution télévisée, une date jugée très optimiste par la maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthoux.
Je vois difficilement comment en 5 ans, cette cathédrale qui a été bâtie pratiquement sur 2 siècles, alors certes, elle n'est pas entièrement démolie, hein, peut être totalement rebâtie. On peut peut-être y faire notamment au moment des Jeux Olympiques un rassemblement extrêmement important. Totalement rebâti, ça me l'air quand même extrêmement optimiste.
Prenons l'avis d'un spécialiste qui a été confronté à un incendie, celui du Parlement de Bretagne qui a brûlé en 1994.
Gérard Bréjean était intervenu à l'époque avec sa société. Dès le lendemain de l'incendie, il raconte les difficultés pour intervenir après un tel incendie dévastateur. Déjà, il avait fallu des semaines pour tout sécuriser.
Une fois qu'on sera vraiment sûr qu'il n'y ait plus de feu à couver, parce qu'au Parlement de Bretagne, le feu couvait encore une semaine après, hein, avec des poutres à cœur qui étaient encore dans les maçonneries. Donc il fallait que les pompiers restent vigilants. Donc après, c'est de déblayer tout l'amas de gravats qui tombait au sol et les poutres certainement restaient en suspens, en bois brûlé, dans les combles. Donc il faut étayer au fur et à mesure, avancer, échafauder. On travaille petitement à l'avancement. Avec l'eau sur le dessus, il doit y avoir un amoncellement de bois brûlé imbibé d'eau sur le dessus, qui doit peser en plus sur les voûtes. Si les maçonneries sont endommagées, ce que je crois, puisque c'est des voûtes en pierre calcaire qui subissent l'effet du feu avec un choc thermique et des températures extrêmes, l'eau aussi, tout ça, ça fait un amalgame et la pierre se désagrège et redevient quasiment de la chaux. Je pense qu'ils vont essayer aussi de faire comme au Parlement de Bretagne, de mettre un parapluie au-dessus pour empêcher les intempéries de continuer à œuvrer.
Et est-ce qu'avec l'eau, il n'y a pas un risque de pourrissement, de moisissure ?
Une fois que les matériaux brûlés seront enlevés, ce qui n'est pas, à mon avis, une masse à faire non plus, il faudra, je pense, envisager un assèchement aussi au fur et à mesure, ce qui peut être avec des appareils spécifiques assez longs aussi.
Ça, c'est par exemple quelque chose que vous aviez dû faire au Parlement de Bretagne ?
On a asséché avec des machines pendant un certain nombre de mois, jusqu'à la fin 94, me semble-t-il.
Gérard Bréjean avec Adrien Beria de France Bleu Armorique sur la difficulté d'intervenir après un incendie.
Une remise en état en 5 ans ou plus, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà des moyens financiers important pour intervenir.
D'après les derniers chiffres donnés ce matin par Stéphane Bern, on va bientôt arriver à 1 milliard de dons. Près de 70 000 donateurs se sont manifestés auprès de la Fondation du patrimoine. C'est du jamais vu. Cela représente en une journée 1,5 an de dons habituellement.
Moi, je compte donner 10 euros. C'est pas énormément, mais c'est ce que je peux et ça va me faire plaisir de savoir que j'ai participé à la reconstruction de cet édifice.
J'ai déjà des amis qui ne sont pas croyants, qui m'ont téléphoné en me disant, ben voilà, on compatit et on donnera de l'argent. Oui.
C'était tellement un symbole de la France que oui, moi je vais donner. Je ne vais pas donner comme LVMH de 100 millions, ça c'est certain, je ne les ai pas. Mais dans la mesure de mes moyens, je vais faire un petit don, oui. Versailles aussi, je donnerai. il arriverait quelque chose à Versailles, je donnerais aussi. Oui, parce que ce sont des symboles, le patrimoine de la France.
Christelle Marquez était à la sortie de la messe hier soir en la cathédrale Notre-Dame de Toulon.
Et les actions se multiplient en France. On a noté que le Stade Toulousain a décidé d'éditer une série de maillots uniques qui sera vendue aux enchères. Pour voir à quoi ressemble ce maillot de rugby collector, rendez-vous sur francebleu.fr.
Dans la Sarthe, la boucherie de l'église à la chapelle Saint-Aubin a lancé une collecte à sa façon. Pour un pot de rillettes acheté, 1 € est reversé pour la cathédrale Notre-Dame, Lauriane Navarre.
C'est une idée du couple de bouchers, Christophe et Magali Brière.
On avait la boule au ventre quand même. On voulait vraiment participer, quoi, voilà. On est en train d'en refaire d'ailleurs.
Vous êtes en train de refaire des rillettes tellement ça marche?
Oui, voilà.
Quand le patrimoine culinaire vient en aide au patrimoine religieux...
Oula. Vous avez vu l'affichette?
Bah là, à l'instant, la cathédrale, hein, c'est Paris, hein. Ça représente la France.
Laurent, sa femme Julie et leur fille viennent d'acheter un pot de rillettes pour la bonne cause. Ils ont tous en tête ces images, les flammes et la fumée noire à Notre-Dame.
Ouais, ça fait bizarre quand même, hein. Tout un patrimoine.
Bien sûr que oui, ça m'a brisé le cœur. Parce que moi, je voulais pas que la cathédrale serait... en feu.
Des générations bouleversées. Et pour mobiliser encore plus, Magali, la gérante de la boucherie, va afficher des pancartes dans la rue.
J'ai les rachis parmentiers d'un côté, là, et l'ordi de l'autre. Je suis en train de faire les affiches.
Il n'y a pas de raison que les gens ne sachent pas. Et puis, bah, ça permet peut-être aux gens qui n'auraient pas forcément participé de participer à leur façon.
Une collecte spéciale cathédrale Notre-Dame à la boucherie de la chapelle Saint-Aubin, c'est jusqu'au dimanche de Pâques.
Lauriane Navarre à la boucherie de l'église près du Mans.
Alors évidemment, pour arriver à 1 milliard d'euros de dons, les rillettes ne suffisent pas. Il faut de grosses sommes données par de gros donateurs comme les familles Pinault, Arnaud ou Bettencourt.
C'est vrai que les entreprises sont clairement incitées depuis la loi Ayagon, comme les particuliers d'ailleurs, à faire des dons qui permettent de déduire 60% d'impôts. Ce sera d'ailleurs 75% pour les particuliers, Édouard Philippe vient de l'annoncer. Cela a donc un prix, comme le rappelle cette spécialiste de l'économie de la culture, Françoise Benhamou.
Ça induit une dépense fiscale qui est importante pour l'État, c'est-à-dire que c'est un manque à gagner en quelque sorte, qui était de l'ordre de 90 millions en 2004 et de 900 millions en 2016. Et en 2017, c'est un rapport de la Cour des comptes qui l'a souligné en disant qu'on était allé très loin, si vous voulez, dans ces déductions fiscales, les avantages qu'elles apportaient. D'autant plus que les entreprises, il faut le savoir, non seulement ont droit à des déductions fiscales, mais en plus peuvent avoir des contreparties qui peuvent aller jusqu'à 25% du don. Par exemple, des dîners qu'elles vont organiser dans la Galerie des Glaces, si elles mécènent la Galerie des Glaces.
La vice-présidente du MEDEF apprécie moyennement que l'on parle d'avantages fiscaux aux entreprises dans ces cas-là, Dominique Carlac.
Est-ce que vous pensez que le réflexe immédiat des entreprises consistant à vouloir donner et à reconstruire une cathédrale qui représente le pays dans le monde a été un calcul fiscal? Moi, je ne crois pas. Je crois que ça a été surtout de se dire il y a des dégâts, d'immenses dégâts, il y a une volonté de reconstruction immédiate et c'est pour cela qu'il faut expliquer les dons, pas pour une raison fiscale.
Et une précision pour la famille Pinault qui a annoncé un don de 100 millions d'euros. Elle annonce qu'elle renonce à la déduction fiscale sur son don. Il n'est pas question d'en faire porter la charge aux contribuables français, dit un communiqué.
13h09 sur France Bleu, la suite d'une heure en France, c'est la suite du grand débat national avec les fuites dans la presse de ce qu'aurait dû annoncer le chef de l'État lundi soir. Et puis la suppression de l'ENA, un moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux d'ici la fin du quinquennat, une baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et l'indexation des retraites de moins de 2000 euros sur l'inflation.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, demande une indexation pour toutes les retraites, pour tous les retraités.
Qu'est-ce qui justifie que des retraités soient augmentés et d'autres moins? On crée encore des inégalités. Enfin, on vient de parler de gens qui sont capables en une seconde de débloquer 200 millions et on va considérer que parce qu'on gagne 2001 euros, on est favorisé. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Quand il faut que les règles s'appliquent pour tout le monde. Il faut indexer les retraites sur les augmentations moyennes de salaire, premièrement. Pas sur le coût de la vie, sur les augmentations moyennes de salaire. Et pour tous les retraités. Pour tous les retraités. Est-ce que, je vous le répète, est-ce qu'à 2001 euros, on est favorisé, riche?
Pour vous, il n'y a pas de plafond à mettre?
c'est une question d'égalité de traitement.
Parmi les mesures qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer, car rien n'est officiel encore, un geste envers les mères célibataires.
L'État pourrait se porter garant du versement des pensions à hauteur de 40%. Ces pensions qui ne sont pas payées, sujet épineux qui rend la vie encore plus difficile aux mères célibataires, comme cette femme que vous avez rencontrée, Grégoire Le Callot.
Ce soir, les deux garçons de Céline ont le sourire, ils ont pu choisir le menu. Comme tous les soirs, cette maman de 38 ans s'occupe seule du repas, comme de tout le reste. Depuis 2 ans, elle est séparée du père des garçons. En mauvais termes avec lui, elle porte tout sur ses épaules, notamment les charges financières.
On pense pension alimentaire, on pense à nourrir ses enfants, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a tout ce qui est autour, il y a payer son loyer, il y a payer toutes les factures qui découlent du logement, mais aussi il y a tous les frais de scolarité, tout ce que des enfants ont besoin au quotidien.
Avec un salaire de 1600 euros, une pension alimentaire l'aiderait pourtant bien, mais elle ne touche rien pour le moment.
Le fait que financièrement, il ne pouvait pas de toute façon me la verser, on a convenu d'attendre meilleure fortune de monsieur pour qu'il puisse me verser une pension alimentaire. Mais je pensais que par la caisse d'allocation familiale, j'aurais quand même quelque chose.
Pour cela, il faudrait une décision de justice. Elle a manqué une occasion alors que son divorce n'est pas encore prononcé. Il faudrait maintenant engager des frais pour pouvoir revenir devant un juge. Elle peut difficilement se le permettre. Alors pour le moment, elle attend et compte chaque euro.
Grégoire Le Callot dans une famille qui ne reçoit pas de pension alimentaire.
Et donc en attendant des confirmations sur ces annonces, car on nous fait savoir que l'Élysée ne confirme ni ne commente les fuites dans la presse au sujet de la sortie du grand débat national.
On a remarqué un petit pic de naissance ces derniers jours. Alors dans ces cas-là, on remonte le temps, on regarde le calendrier.
Il y a 9 mois et 2 jours, la France était championne du monde et il y a plusieurs façons de fêter un titre de champion. Vous êtes allé à la maternité, Alexandre Berthaud.
Oui, au 6e étage de la clinique Santa Maria à Nice. Il est né à 4h40, le 14 avril. Il s'appelle Timéo et pendant qu'il dort sagement dans les bras de sa grand-mère, on a posé la question à sa maman Julie.
Est-ce que c'est un bébé Coupe du Monde ?
Bah oui, c'est un bébé Coupe du Monde. Hein.
C'est pas fait exprès.
C'est pas fait exprès, mais bon, on a fêté ça et 9 mois après, ben voilà, il est là. Ah oui, c'était la grosse fête, hein, la Coupe du Monde. Hein.
Et Timéo n'est pas le seul bébé Coupe du Monde. Hein. Ces 2 dernières semaines, plusieurs maternités ont connu un petit baby-boom, y compris à Santa Maria, selon Magali, une sage-femme.
Ils ont dû faire la fête, les gens, après la Coupe du Monde, certainement, parce qu'on a eu pas mal de bébés.
On voit qu'il y a une petite activité, oui, depuis 2 jours.
Certains ont même le prénom qui va avec. Plusieurs Kylian sont nés à Santa Maria ces 2 dernières semaines.
Les bébés Coupe du Monde qui arrivent en ce moment. Alexandre Berthaud, à France Bleu Azur.
Est-ce que le PSG sera champion de France ce soir ?
On se répète. Il faut cette fois que les Parisiens ne perdent pas à Nantes. C'est un match en retard et Kylian Mbappé, dont on parlait à l'instant à la maternité, ne sera pas là, il ne sera pas sur le terrain.
Nantes PSG, c'est à 19h, juste avant les dernières affiches de quart de finale de la Ligue des Champions.
Manchester City, Tottenham et Porto, Liverpool ce soir. L'Ajax d'Amsterdam et Barcelone se sont qualifiés hier soir pour les demi-finales en battant la Juventus Turin et Manchester.
Allez, on jette un œil sur les programmes télé qui s'adaptent après l'incendie de la cathédrale parisienne. W9 a diffusé hier soir Notre-Dame de Paris, Plus belle la vie a glissé, In extremis, une allusion à l'incendie dans son épisode d'hier.
Et Arte propose ce soir Quasimodo, le sonneur de cloche qui a mis le feu à la cathédrale dans le roman Notre-Dame de Paris. Quasimodo, le film américain sorti en 1939. Ça fait peur, hein ?
Un peu. Et le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo est en tête des ventes de livres depuis hier. On veut relire, redécouvrir l'histoire de Notre-Dame. Nous serons à 13h20 avec le directeur de la maison de Victor Hugo, Paris-Guernesey.
Et ensuite, nous irons au Festival d'Avignon et sur un rallye de Monte-Carlo des années 60 avec Johnny. Voilà le programme du jour, après la météo.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.